Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 15 juillet 2021. Dans l'état du Victoria, le port du masque est de nouveau obligatoire après l'apparition d'un nouveau cluster à Melbourne. On recense deux nouveaux cas aujourd'hui. À Bruxelles, l'Union européenne a présenté mercredi un plan climat très ambitieux. Il prévoit notamment la fin des véhicules à énergie thermique pour 2035. Enfin, en France, hier, c'était la fête nationale. On ira dans les rues de Paris au moment où a été tiré le feu d'artifice. Et avant d'en venir au Victoria, un petit détour par la Nouvelle-Galles du Sud où on constate aujourd'hui une légère inflexion dans le nombre de nouveaux cas de Covid puisque 65 seulement, si j'ose dire, ont été annoncés aujourd'hui par les autorités qui s'attendent, ceci étant dit, à ce que ça remonte un petit peu demain. Gladys Bérégé-Client a annoncé hier que le confinement allait être prolongé jusqu'au 30 juillet. Aujourd'hui, elle a regretté que parmi les nouveaux cas, un nombre toujours important avait continué à se déplacer après l'apparition de symptômes, en l'occurrence pour voir leur médecin ou pour aller à l'hôpital.
Make sure you stay home and only leave the house if you absolutely have to. Regrettably, a number of people who were infectious in the community were because they went to pharmacists while they had symptoms to get medical attention, they went to GP clinics, they went to GPs.
À Melbourne, donc, deux nouveaux cas de Covid ont été détectés. Il s'agit d'un enfant âgé de 9 ans et d'un homme d'une soixantaine d'années. Ils vivent tous les deux sous le même toit et vraisemblablement, ils ont tous les deux attrapé le virus samedi dernier alors qu'ils assistaient à un match de AFL opposant Geelong à l'équipe de Carlton. Les masques dans le Victoria, en tout cas à Melbourne, sont de nouveau obligatoires dans les lieux clos. Jaron Waymar, le commandant Covid-19, a pour sa part précisé que 6500 cas contacts étaient actuellement à l'isolement à travers l'état du Victoria.
This is probably the fastest response we've ever seen to an outbreak that's moving more quickly than we've ever seen here in Victoria or I suspect anywhere else in Australia. Currently, right now we have 16 cases in total are associated with these two chains of transmission. We have over 75 exposure sites, some of them very large and complex locations.
Enfin, pour clore ce chapitre australien, un sondage qui révèle que les Australiens les plus âgés ne sont pas les plus pressés pour se faire vacciner. En tout cas, se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. D'après une étude menée par l'Australian Bureau of Statistics, 35% des personnes âgées de 50 à 69 ans n'ont pas encore été vaccinées, et ce malgré le fait qu'elles soient éligibles, et ce parce qu'elles souhaitent recevoir donc un autre vaccin que celui qui leur est actuellement recommandé, le seul qui leur est accessible, l'AstraZeneca. C'est également le cas de plus du quart des personnes âgées de plus de 70 ans. Rappelons au passage que pour cette dernière catégorie d'âge, elle représente plus de 90% de toutes les victimes du Covid en Australie. L'Union européenne a dévoilé hier son plan climat à Bruxelles. L'objectif, très ambitieux, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035. Et pour y arriver, quelques mesures choc. Il est notamment envisagé la fin, pour cette date, 2035, des véhicules diesel et des véhicules à essence. On fait le point avec Anne Verdaguet de Radio France Internationale.
C'est un paquet climat historique, peut-on entendre à Bruxelles, et ce colossal ensemble législatif qui fera encore l'objet d'âpres discussions entre eurodéputés et États membres marque en effet un tournant dans la politique européenne face au changement climatique. Première grande évolution, la fin des voitures à essence dès 2035. La plupart des constructeurs automobiles ont déjà entamé une réduction drastique de leurs émissions de CO2. La Commission propose également de taxer à partir de 2023 le kérosène pour les vols au sein de l'UE. tout en imposant aux compagnies aériennes un taux minimal de biocarburant. Mais le plus important, c'est un élargissement considérable du marché du carbone européen où s'échangent les fameux permis à polluer. Bruxelles veut l'étendre au transport maritime ainsi qu'au transport routier et au chauffage des bâtiments. Pour les ONG, le risque est le report de cette taxe sur le consommateur et une flambée des prix de l'essence et du fioul domestique. En contrepartie, la Commission promet que son plan sera équitable pour tous et annonce un mécanisme d'action sociale pour aider les ménages les plus modestes et contrer la précarité énergétique.
En Afghanistan, les talibans poursuivent leur avance. Ils viennent d'annoncer s'être emparés hier du principal poste frontière avec le Pakistan. Une prise stratégique et essentielle car elle leur permet de prendre le contrôle de l'entrée d'une grande partie des marchandises dans le pays. Les précisions de Yelena Tomic, RFI.
Depuis plusieurs jours, les postes frontières clés tombent un à un sous le contrôle des talibans. Après celui de Shirkan Bandar dans le nord du pays, qui contrôle la très stratégique route menant au Tadjikistan et à toute l'Asie centrale, d'un autre à la frontière avec le Turkménistan et de celui d'Islam Kala, principal point de passage avec l'Iran, il y a quatre jours, les talibans ont annoncé la prise de Spinboldak Shaman, un poste frontière majeur qui contrôle la route commerciale la plus importante entre l'Afghanistan et le Pakistan. En un peu plus de deux mois d'une offensive tous azimuts, les insurgés ont donc réussi à se rendre maîtres des frontières du pays et des taxes douanières. Nouveau coup dur pour les forces afghanes qui, après avoir perdu les trois quarts du territoire, se retrouvent désormais sans cette importante source de financement. Malgré les démentis des autorités afghanes qui affirment avoir repoussé les attaques des insurgés, plusieurs vidéos attestent de leur présence à Spinboldak où les talibans ont hissé leur drapeau blanc de l'Émirat islamique.
Hier, c'était le jour de la fête nationale en France. Il y a quelques heures à peine, a été tiré le feu d'artifice du 14 juillet, une tradition dans la capitale Paris. Alors l'ambiance, comment c'était ? Nathanaël Vitran était sur place pour RFI, on l'écoute.
Pour vous décrire un peu ce feu auquel on a pu assister, je vais vous répéter ce que m'a dit Esther, 8 ans. Ça faisait boum 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 et il y avait plein de couleurs, ambiance festive, ce soir public. Nombreux, très nombreux pour assister à l'événement. Des milliers de personnes massées sur les quais de Seine, sur les ponts, sur les parcs, alentours, partout en fait, où on arrivait à entrevoir un petit bout de Tour Eiffel pour être aux premières loges, pour assister aussi au concert de l'Orchestre National de France sur le Champ de Mars. La jauge était limitée à 15 000 personnes et surtout, il fallait présenter le fameux pass sanitaire. Alors la plupart des spectateurs ont joué le jeu, je me suis rendu sur place. Mais pour être allé voir, visiblement, tout le monde n'était pas au courant. Ça a créé une certaine confusion. Certains ont essayé de négocier. Une jeune femme était même prête à se faire vacciner immédiatement sur place. Mais ça, Raphaël, malheureusement, ça n'était pas une option. Le thème de ce feu d'artifice, c'était la liberté. Certains spectateurs, ironiquement, ont ajouté « liberté surveillée ». Le contexte sanitaire indécis. Les mesures annoncées cette semaine ont un peu, mais certainement pas complètement, gâché la fête.
Et les mesures annoncées cette semaine auxquelles fait référence Nathanaël Vitran, c'est notamment l'extension du pass sanitaire qui, à compter du mois prochain, sera indispensable pour aller, par exemple, au cinéma ou au restaurant. Une mesure qui a été dénoncée hier par de nombreux manifestants qui ont donc défilé dans Paris et qui voient avec cette mesure une forme d'obligation à la vaccination. Et ces manifestants, ils sont d'autant plus en colère que le texte de loi qui devrait mettre en place l'extension du pass sanitaire est actuellement examiné par le Conseil d'État. Eh bien, il a fuité dans la presse. Il prévoit notamment des peines de prison en cas de non-respect de ce pass sanitaire. Explication de Pierre Olivier pour RFI.
L'article 1er du projet de loi est on ne peut plus clair. Le fait pour l'exploitant d'un établissement de ne pas contrôler la détention du pass sanitaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, 135 euros pour le client en infraction. Une façon pour l'exécutif de calmer les velléités de certains patrons de restaurants notamment qui souhaitaient se soustraire au contrôle du précieux sésame. À partir du 1er août, il sera en effet obligatoire pour rentrer dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, lieux de loisirs, avions ou encore les trains grandes lignes. Les employés de ces établissements devront aussi s'y soumettre et être négatifs ou vaccinés. Le projet de loi ne s'arrête pas là. Les salariés pour qui la vaccination est obligatoire, comme les pompiers et les soignants, devront être à jour avant le 15 septembre, sous peine de devoir cesser leur activité et même d'être licenciés si la situation perdure plus de deux mois. Enfin, le texte prévoit un isolement de 10 jours pour les personnes positives avec des contrôles effectués par les forces de l'ordre directement au domicile des malades.
Et puis comme toujours, on termine ce bulletin en jetant un coup d'œil rapide à la météo de ce jeudi en Australie. 18 degrés à Perth, il pleut sur place, 17 degrés à Adélaïde, 17 degrés aussi à Melbourne, qui n'est pas à l'abri de quelques averses, 14 degrés à Hobart, 21 degrés à Sydney, 25 degrés à Brisbane et 32 degrés à Darwin où, malgré le soleil, le temps est aujourd'hui très moite.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.